et les bords, minuit. De l'eau sur Mars.
De l'eau sur Mars, sur et les bords, la nuit à partir de minuit, le secret.
Sur et les bords.
Lay down in the tall grass, in the flat-bottomed boat. We lay down and wait for you, with nothing but a piece of rope. Dreaming every night of you, shaking at the sight. I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight of you. Will you beg for forgiveness? Will you pray to be saved? Or will you choke your children when they spit in your face? Dream on every night of you, shaking at the sight. I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight. I dreamt you found me out in the field, you tripped over my sight, and you dug me out of a shallow grave with your Swiss Army knife. And only you could revive me, so badly decomposed I was bone wet, dry and scaly. But you still took me home, dreaming every night of you, shaking at the sight of you. I'll be dreaming every night of you. And how can you be so serene? Motivation unclear in a late basement seance that brought us to tears. Dream on every night of you, shaking at the sight. Oh, I'll be dreaming every night of you, I'll be shaking at the sight. And I dreamt you found me out in the field, you tripped over my sight, and you dug me out of a shallow grave with your Swiss Army knife. And only you could revive me, so badly decomposed I was bone wet, dry and scaly. But you still took me home, dreaming on every night of you, shaking at the sight of you. I'll be dreaming every night of you,
acordarte de mí cuando viste ese tipo. Y fue esa noche así cuando él no me dijo. Y ahora no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo de nada. Pero eso sé, quise, quise, quise que no es él. Es el bandido, bandido, bandido de amor. Es el bandido, bandido del amor. Es el bandido, bandido del amor. Es el bandido. Fue una noche así con el bandido. Fue una noche así con el bandido. De Perú a Paraguay, el bandido. De Colombia a Brasil, el bandido. Bandido del amor, el bandido del amor, el bandido del amor.
Oh, Ma future épouse était une comptable de 32 ans, accro à l'héroïne. On s'est mariés pour que je puisse rester dans le pays, puisqu'on prenait du bon temps quand on planait ensemble. Ma rencontre avec Suzanne a marqué le moment où l'usage de drogue a cessé d'être le fruit sain de ma jeunesse et de ma témérité pour devenir la seule chose qui comptait à mes yeux. Ce vieux fatalisme des Irlandais alcoolos qui m'accompagnait depuis toujours a refait surface. Planer et prendre du bon temps ont cessé de suffire. J'avais besoin de monter plus haut. J'avais besoin de sentir mon cœur cogner si fort que j'avais l'impression qu'il allait faire exploser ma poitrine. J'avais besoin de sentir les palpitations, de voir flou, de voir double. J'avais besoin de savoir que la mort était là, dans la pièce, que j'étais plus rapide, plus jeune et plus futée qu'elle. Au début, on se baladait dans sa Mercedes bleu pâle des années 80. Capote baissée, punk rock à fond sur le lecteur de cassette, et on s'arrêtait pour se défoncer. On avait toujours assez de drogue. Héroïne, crack, méthamphétamine. Au réveil, on se droguait. On se droguait jusqu'au moment où on perdait connaissance. Et il y avait toujours de l'argent. Celui que je gagnais en écrivant des musiques de clips, et celui qu'elle avait économisé grâce à ses emplois de comptable. Il semblait qu'il ne s'épuiserait jamais. Et avec ses dollars, Suzanne avait acheté quelqu'un d'aussi obsédé qu'elle par l'idée de la destruction totale. Ce n'était pas l'amour, mais on était implicitement d'accord sur la perspective de mourir ensemble. La cérémonie a été aussi brève et sommaire qu'on peut l'imaginer. La maison était délabrée et mal éclairée. On a signé les papiers défoncés et nerveux. Puis, comme on n'avait pas d'amis, la vieille femme a fait descendre sa fille, ou sa petite fille, qui a tenu lieu de témoin. Elle avait environ 16 ans, et pas la moindre envie de s'éloigner de son émission de télé. Elle nous a regardés sans un mot, en mâchant du chewing-gum, et on lui a adressé des larges sourires hébétés. Ça n'a pris que 10 minutes. C'était la deuxième fois que je me mariais, alors que j'étais si camée que je ne savais même pas ce que je faisais. La première fois, ça s'était passé en vitesse, à Vegas, avec une blonde vindicative, déchirée à l'alcool et à la mette. Et cette fois, 2 ans plus tard, le cerveau embrumé par l'héros et la tête légère à cause du crack, j'ai chanté la marche nuptiale de Wagner pendant qu'on sortait en chancelant pour rejoindre la voiture de Suzanne.
sur Elebor.
Madame rêve d'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin. On est loin des amours de loin.
On est loin.
Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerre, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin,
on est loin.
Madame rêve, Madame rêve.
Il savait maintenant que l'argent était une chose que l'on ne possédait pas toujours, qu'il fallait l'acquérir, de quelque façon que ce fût. Il avait à présent conscience d'avoir été habitué à considérer comme naturelle l'atmosphère de bien-être dans laquelle il avait vécu, alors qu'à droite et à gauche de son existence béaient des abîmes auxquels son regard n'avait jamais fait attention. Il remarquait brusquement qu'il y avait des professions et des situations diverses, que sa vie était bordée de mystères faciles à constater, et que, pourtant, il les avait toujours ignorés. Edgar, en cette heure-là, apprit beaucoup. Maintenant qu'il était livré à lui-même dans cet étroit compartiment, aux fenêtres ouvertes sur l'horizon, ses yeux commençaient à voir, et tout doucement, au milieu de son obscure anxiété, quelque chose commença à s'épanouir, qui n'était pas encore du bonheur, mais qui était déjà un sentiment d'admiration devant l'aspect multiple de la vie. Il s'était enfui par peur et par lâcheté. Il le sentait à chaque instant. Mais, malgré tout, c'était la première fois qu'il agissait de son propre mouvement. C'était la première fois qu'il prenait contact avec cette réalité à côté de laquelle, jusqu'ici, il passait indifférent. Et peut-être était-il lui-même devenu un mystère pour sa mère et pour son père, tout comme l'univers l'avait été jusqu'alors pour lui. Il regardait par la fenêtre avec des yeux neufs, et il lui semblait que le voile qui jusqu'ici lui cachait les choses venait de tomber, et que celle-ci lui montrait ce qu'elles étaient, leur âme, le nerf secret de leur activité. Les maisons volaient devant lui, comme emportées par le vent, et il pensait sans le vouloir aux hommes qui y habitaient, se demandant s'ils étaient riches ou pauvres, heureux ou malheureux, s'ils avaient comme lui le désir de tout connaître, et s'il y avait des enfants qui, eux aussi, n'avaient fait jusqu'à présent que jouer avec les choses. Les gardes-barrières qui se tenaient le long de la voie avec leurs drapeaux déployés ne lui paraissaient plus comme auparavant des mannequins, des poupées sans initiative, des jouets sans vie. Ils comprenaient que c'était là leur destin et leur façon de lutter pour l'existence. Les roues roulaient toujours plus vite. Maintenant, les courbes serpentines de la voie conduisaient le train vers le fond de la vallée. Les montagnes s'éloignaient et disparaissaient de plus en plus. On avait atteint la plaine. Une fois encore, il regarda dans leur direction. Déjà là-bas, elles étaient bleues et semblables à des ombres. Subitement, il lui sembla que dans ces lointains nébuleux, où elles se dissolvaient lentement, était restée son enfance.
Thank you. sa bonté. Un Judas mal orni. Et j'ai pris les verres anglais. Seulement laisser les jouer par milliers. Seulement laisser tes avances. Sommes-nous la sécheresse? Sommes-nous la vaillance? Ou le dernier coquelicot? Armée de répondeurs, occupés à se dire, mais naufrage au sous du lit. Seulement laisser nos héros préférés, seulement laisser nos absences, sommes-nous des gonzesses? Sommes-nous de connivence ou le dernier coquelicot? Terre promise, redis-moi ton nom. Dis-moi en face que tout s'efface. Sommes-nous la noblesse? Sommes-nous les autres? Sommes-nous le souvenir? J'ai commandé, décommandé, de mes yeux la prunelle, balancé les jumelles, pour ne garder que le flou. Seulement laisser les passions immortelles, seulement laisser nos offenses, sommes-nous la sécheresse, sommes-nous la romance, sommes-nous la sécheresse.
Défier. personne à déplaire. Où est-elle passée?
Le soir même, le gérant du motel me passait l'appel d'un type à l'accent tellement marqué que je ne comprenais qu'un mot sur deux de ce qu'il me racontait. En résumé, il me disait qu'il savait qui j'étais, qu'il aurait bien aimé me rencontrer pour bavarder de son frangin devant une bonne bière, mais que, pas de bol, il devait partir le soir même pour Birmingham où il bossait sur un chantier. Il serait absent une quinzaine, mais si ça m'intéressait, il pouvait laisser à Merle, le gars de la station-service, les lettres que Butch lui avait envoyées du Vietnam. Le lendemain matin, je me pointais à la station-service où, après m'avoir demandé qui j'étais, le gérant, sans un mot de plus, me refilait le trésor de Brad. À en croire le texte imprimé sur le couvercle cabossé, la petite boîte de métal jaune était censée renfermer la gaze enduite d'une pommade antiseptique pour les brûlures. Bien sûr, je savais ce qu'elle contenait, mais je ne me sentais pas de l'ouvrir là, appuyé au comptoir, sous le regard soupçonneux de ce type. Et pour tout te dire, même dans la voiture, seule avec elle, il m'a fallu un bon bout de temps pour me décider. Les lettres, une dizaine, bien à plat, bien pliées dans leurs enveloppes estampillées du service postal des armées, étaient adressées à la station-service de Merle Tubb à l'intention de Brad Lynn. C'était étrange, ces 10 lettres sous mes yeux, entre mes mains, jusque-là soigneusement rangées dans une boîte en fer, quelque part en Alabama, j'avais vu Butch les écrire une à une au fil des mois, sans jamais penser qu'un jour je les tiendrais entre mes doigts, toutes ensemble. Butch, c'était lui tout entier que j'avais sous les yeux, simple, chaleureux, presque enfantin, tellement sincère. Lui, à tel point que je me surprenais, alors que j'avais éprouvé les pires réticences à extraire de son enveloppe la première lettre, à lire celle-ci en toute quiétude, comme si, par-delà ces mots, c'était mon vieux copain que je retrouvais, qui me parlait. Et rien de ce que j'avais craint ne se produisait. Mes mains ne tremblaient pas, mon cœur battait tranquille, mes yeux restaient secs et, au coin de mes lèvres, je sentais même pointer quelque chose comme un sourire. Ce qu'il racontait de son écriture malhabile, dans son langage plein d'ardeur, truffé de fautes énormes, c'était notre quotidien. Celui que nous avions partagé, que je connaissais par cœur, mais qui, sur le papier, se révélait sous un jour nouveau. La différence se tairait dans les détails, ce que je gardais en mémoire et qui ne figurait pas dans la lettre, ce que Butch y avait mis et que je n'avais pas enregistré. Où avait-il vu que le sergent Cooper boitait et qu'il semblait en retirer une certaine fierté? Comment n'avait-il pas remarqué qu'il était si peu sûr de lui quand il donnait un ordre que les mots trébuchaient sur sa langue? Moi, je ne savais pas que Tony Moreno, qui occupait le lit voisin du mien, mettait des chaussettes rouges pour dormir. Et Butch ignorait, sinon il l'aurait dit, qu'il avait les yeux verrons. On voyait les mêmes choses, mais pas tout à fait. Dans une de ses lettres, Butch racontait qu'Eliot Agar, de South Bend, dans l'Indiana, était drôlement fort au poker, que ce type avait un don. En réalité, Eliot était un tricheur de première, et s'il n'était pas mort là-bas, je n'aurais pas donné cher de sa peau dans le circuit professionnel où il projetait de se lancer à son retour. Chacun voit le monde à sa manière, et après tout, si Butch se plaisait à croire qu'Eliot possédait un don de Dieu, quelle importance. Extrait du roman de Lionel Salin, Le retour de Jim Lamar.
L'amour toujours, l'amour par vingt ans, l'amour qui court, l'amour aux quatre vents, l'amour mon amour, l'amour qui meurt, l'amour qui survit à tout et à ta sœur, l'amour de jeunesse, l'amour qui passe, l'amour qui lasse, l'amour qui ne lasse pas, le premier amour, le dernier amour, l'ultime amour, l'amour. Qui veut ça, c'est la vie, mon gars. À la vie, à l'amour, je t'aimerai toute ma vie, fidèle. Et la jeunesse, bordel, la jeunesse éternelle, ma jeunesse s'enfuit. Il faut que jeunesse se fasse, jeunesse, ma jeunesse heureuse, une jeunesse de dégoût. Je n'espère plus rien, oh non, plus rien du tout. C'est ça,
la vie,
si c'est ça,
alors tant pis.
Une vie
inremplie,
une vie
gâchée,
même une vie
de tordu.
On fait ce qu'on peut,
sa vie
pour une mort
belle,
une mort
sans douleur,
une mort
sereine,
une mort
à son âge,
jusqu'à ce que mort
s'en suive
et que de vie
à trépas
on oublie
la jeunesse
pour l'amour.
De l'eau sur Mars, sur et les bords.
facing the mirror of my own reality, flush out all the mysteries hidden in those eyes. Oh, facing my reality.
Fermé, Claude s'abandonnait aux vibrations qui pénétraient ses tympans et irriguaient son corps jusque dans ses plus lointains atomes. Le chant hypnotique du roi des aulnes lui purifiait l'esprit, le nettoyait de ses scories, lui donnait la pureté nouvelle d'un drap lavé à grande eau et blanchi au soleil. Son existence quotidienne s'évaporait, son être se fondait dans la musique de Schubert, son corps se transmuait, disparaissait dans la beauté des sons. Elle n'avait plus d'identité propre. Elle participait de la poésie, devenait tout entière poésie. Elle renaissait. Le bienheureux oubli d'elle-même dura plusieurs minutes, qui furent comme un siècle de beauté. Et puis, insidieusement, provoqué peut-être par un craquement du disque sur la platine, ou par quelques bruits de voisinage, ou bien fruit d'un implacable automatisme intérieur, la rumination reprit possession de son esprit. Il y eut une première pensée, petite et basse, puis une autre, et une autre encore, devoir d'école, cours de piano, femme de ménage, et les papiers à remplir, et les choses à acheter, les décisions à prendre, la vie à organiser. Et puis tout ce qu'il avait heurté, un gilet qui traînait sur un tabouret, un mot mal choisi, une rature sur un formulaire, formant un flot continu de peur et de rancune. Et la voix du chanteur fut recouverte par le grincement des reproches et des auto-reproches, le grondement des regrets remâchés, le tic-tac des griffes égrenées. Claude alla soulever le bras de la platine pour arrêter le disque. À quoi bon ? Même un lied de Schubert ne pouvait la libérer de ses démons. Extrait du roman de Vanessa Gau, Une famille nucléaire.
Tragic visions of joy.